Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Créum. Éthique en série avec Martin Winkler et Daniel Weinstock.
Et toi, Marc, qu'est-ce qui te fait rire ?
Moi, ce qui m'a fait rire pendant plusieurs années et recommence à me faire rire parce qu'on est en train de tout revoir, c'est une comédie qui est, à mon avis, l'opposé de Seinfeld. C'est Everybody Loves Raymond.
Série américaine.
Qui a duré 9 ans. 9 ans. 8 ou 9 saisons. La situation est une situation très simple. Ray Romano, qui était comme Seinfeld, un stand-up comic, apporte à Phil Rosenthal, qui est un scénariste, CBS demande qu'il ait son propre show, ils essayent de travailler ensemble là-dessus. Et puis Ray lui dit en fait, il y a eu une époque, la pire époque de ma vie, c'est quand j'ai vécu dans un appartement avec ma femme et mes enfants, et mes parents étaient dans l'appartement d'en face. Et Phil Rosenthal lui dit, mais moi aussi ça m'est arrivé comme ça. Donc ils partent de cette situation-là, et donc ils inventent ce personnage de Ray Barone, qui a une femme et trois enfants, et qui habite dans une petite maison dans le New Jersey, et de l'autre côté de la rue, il y a ses parents, Marie et Frank, et puis son frère, Robert, qui fait 2 mètres de haut, 2 mètres 10 de haut, qui est un flic, etc. Et évidemment, le problème, c'est que les trois autres sont toujours rendus chez eux parce que everybody loves Raymond. On peut pas leur refuser d'être là puisqu'ils t'aiment comme ça. Et moi, ce que j'aime énormément dans cette série, c'est deux choses. La première chose, c'est cette situation de Ray qui est pris entre deux feux, qui est la loyauté qu'il devrait avoir envers sa femme, qui est adorable, enfin qui est délicieuse, et d'ailleurs qu'il adore, et avec laquelle il voudrait s'envoyer en l'air régulièrement, alors qu'elle, elle est un peu moins enthousiaste que ça, pour des tas de raisons, et c'est un ressort comique tout à fait bienvenu. Et puis, de l'autre côté, la loyauté qu'il devrait avoir vis-à-vis de sa famille, et qu'il n'a pas toujours parce qu'il a eu des difficultés à grandir avec son père, parce qu'il était un peu le chouchou de la mère, parce que le frère le jalouse, parce que, etc. Bon, il y en a toujours pour Raymond, quel petit dernier. Et j'aime beaucoup cette situation, justement, de conflit de loyauté. Parce que c'est ça qui donne le ressort comique, avec ce type-là qui n'est pas un génie, qui est même un type qui est un peu fruste par certains côtés, qui est intelligent, qui a une intelligence, émotionnelle importante, mais qui est quand même l'Américain moyen qui ne sait pas exactement comment il faut s'y prendre avec les femmes. Je me souviens d'un épisode il n'y a pas très longtemps où la manière que Ray a eu de proposer à sa femme de l'épouser, c'était en lisant « So what do you think ?» Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'aime énormément, bien que ça concerne un personnage que j'assassinerai volontiers à peu près trois fois par épisode, c'est le personnage de Marie. Le personnage de Marie est la mère. Et à la fois italienne et juive. C'est-à-dire que quand Phil Rosenthal écrit les scénarios, il décrit une mère juive, et elle est italienne et juive symboliquement, ce qui la rend à tuer. C'est-à-dire que c'est la personne qui sait toujours appuyer sur le bouton qu'il faut pour mettre l'autre en difficulté. Et c'est pas du tout, justement, la même chose qu'avec... avec Seinfeld, avec George dans Seinfeld, qui met les gens en difficulté, mais qui les met en difficulté parce que il demande des choses pitoyables. Elle, c'est pas ça du tout. Elle les met en difficulté parce qu'elle les prend par les sentiments, parce qu'elle les humilie. Alors que dans Seinfeld, c'est l'inverse. C'est George qui est humilié, hein, qui se met en position d'humiliation. Elle les humilie ou elle les met devant des doubles injonctions dont évidemment ils ne peuvent pas sortir. C'est-à-dire qu'elle incarne parfaitement un personnage qu'on décrit toujours de manière, comment dirais-je, fictive, mais qui est le pervers manipulateur. Donc, Marie est un personnage qu'on a envie de tuer. À peu près à chaque épisode. Et en même temps, il y a toujours, et moi c'est ça que j'aime, il y a toujours cette parcelle d'humanité qui permet de dire « Ouais, d'accord, c'est un monstre, cette femme, c'est un monstre. » Mais quand, par exemple, Ray veut convaincre son père qu'il vit avec un monstre, son père lui dit « Mais de quoi tu te mêles ? Moi, j'ai choisi de vivre avec ce monstre. » Et effectivement, c'est une série aussi sur les paradoxes de la vie de couple. Alors, ça parle beaucoup de la vie de couple.
Tout à fait. Alors, on espérait tomber sur une série qui nous mettrait en désaccord, et là, on n'a pas réussi, parce que c'est une série que j'ai également adorée, mais que j'ai adorée un peu à ma surprise. Je n'ai pas regardé les deux premières saisons, parce que je me disais, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est tout le contraire du slogan Seinfeld, « No growing, no hugging, no learning », un truc à l'eau de rose, famille, machin. Alors, je ne l'ai pas regardé. Et un jour, j'étais malade, je faisais de la fièvre, j'étais à la maison, et je me suis dit, bon... je ne peux que zapper, je tombe sur un truc de Everybody Loves Raymond, je m'apprête à zapper pour passer à la prochaine chaîne, mais je me rends compte que cette émission à l'eau de rose que je m'imaginais, il y avait deux personnages en train de s'engueuler comme du poisson pourri, mais un peu comme les gens s'engueulent dans la vraie vie, oui, en se disant ouais. Vraiment des méchancetés. Et je me rends compte que les deux personnages, ce ne sont pas un voisin et son voisin, c'est un homme et sa conjointe qui ont... Mmh. Donc, en l'occurrence, Ray et sa conjointe,
Deborah.
Qui sont en train de s'engueuler comme je n'ai jamais vu un couple s'engueuler dans une série comique américaine. Mmh. Et alors, je me dis, oh là là, je pose le déclic. Et là, je vois arriver les parents. Alors, tu as parlé de Marie, j'en reparlerai pas. Il faut également parler du père. Qui est incarné par un des très grands acteurs américains, Peter Boyle, qui a fait des films de Mel Brooks, de Paul Schrader.
Qui a joué dans X-Files, etc.
Qui est un des personnages, je dirais, les plus étranges qui ait jamais été mis en scène dans une série comique américaine mainstream. C'est un extraterrestre.
Oui, oui.
C'est une sorte d'extraterrestre qui dit des choses parfois qui sont horribles, qui dit des choses qui feraient rougir Larry David, pour revenir à ce dont on parlait la semaine dernière, mais qui les dit sur un ton... que je ne saurais caractériser autrement que d'extra. Alors, j'ai commencé à regarder cette série, et qui me fait rire, mais qui me fait rire au point d'en avoir mal. À tous les épisodes, il y a quelque chose qui me fait rire au point d'en avoir mal, mais ce n'est jamais par l'exploitation d'une sorte de sentimentalisme niant-niant.
Non, c'est vrai.
Parce que les rapports qui y sont dépeints, et c'est quelque chose de remarquable pour une série qui, alors là, dure 22 minutes ou 23 minutes par épisode, qui dépeint parfois de réels conflits. Et qui ne les édulcore pas.
Ouais,
et ça, je trouve que c'est quelque chose de remarquable.
Moi, je trouve... Alors, tu vois, je pense qu'une série comme Everybody Loves Raymond a tout à fait sa place dans une série qui s'appelle Éthique en série, parce que, justement, ça parle, à mon avis, justement, de l'éthique des relations familiales.
Absolument.
Et tous les aspects des relations familiales sont envisagés. Moi, je conseille aux auditeurs qui auraient envie de regarder Raymond, ou qui connaissent Raymond, mais qui ont un peu oublié, de louer les DVD, parce que dans les DVD, il y a plusieurs conférences qu'ils ont données au Museum of Radio and Television, je pense de Los Angeles, parce qu'il y en a aussi à New York, dans lequel il y en a un avec les acteurs, et il y en a un autre qui est encore plus passionnant avec tous les scénaristes. Et on apprend que tous les scénaristes autour de Phil Rosenthal ont puisé dans leur vie conjugale, dans leur vie familiale, les anecdotes qu'ils ont exploitées. Et alors, ils se mettaient, tous les lundis, ils arrivaient de chez eux, et ils disaient, bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, ce week-end? Et ils se mettaient à raconter les trucs. Ils disaient, oh, ça, c'est merveilleux, mais là, on va pas pouvoir le faire. Pour telle raison, ils le mettaient de côté, ils attendaient, puis 6 mois après, ils disaient, celui-là, on va le faire. Bon. Donc, il y a une matière qui vient directement de l'expérience des uns et des autres. Il y a un épisode hilarant avec Ray qui part en voyage pour aller faire un reportage quelque part, puisqu'il est chroniqueur sportif. Et puis, il y a un truc autour de la valise qu'il a remplie, et puis qu'il ramène sa valise, et puis Deborah lui dit, bah, tu montes ta valise. Il dit, bah, non, moi, je pensais que tu allais monter ma valise. Et puis, la valise, du coup, comme elle lui dit, mais tu vas pas me traiter comme ta bonne, et la valise, elle reste là pendant une semaine, et évidemment, les parents s'inquiètent, parce qu'il y a la valise de Ray dans l'escalier, pourquoi il y a sa valise, est-ce qu'il est prêt à partir, etc. il y a tout un truc autour d'éléments qui sont des éléments de conflit minuscules, mais qui prennent une proportion absolument extraordinaire, en particulier grâce à Marie, qui, elle, a une imagination débordante et qui fait un drame de tout. C'est quelque chose qui, moi, me parle tellement. Enfin, je sais qu'on le regardait avec ma femme et nos enfants. Nos enfants n'avaient pas vu la première saison, donc on s'est mis à tout revoir depuis le début. Et ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde parce que ça illustre exactement la complexité que c'est de vivre dans une petite communauté qui est une famille.
Voilà. Et un regard par rapport à la parenté, au fait d'être un parent et de l'enfance, qui est tout à fait vrai, qui est drôle, comme le fait d'être parent l'est très souvent, et qui n'est pas simple. Notamment, à toutes les saisons, il y a au moins un ou deux épisodes où la principale représentation que les parents se font de leurs enfants, ce sont de petites machines à empêcher les parents d'avoir des rapports sexuels.
D'avoir des rapports sexuels.
Hein? Donc, essentiellement, les enfants apparaissent comme cela, comme des obstacles à la vie conjugale.
D'ailleurs, Ray et Debra, il n'y a pas que les enfants qui les empêchent d'avoir des rapports sexuels, il y a les parents aussi. C'est-à-dire, ils sont aussi, en tant que couple, pris entre deux feux. Je me souviens d'un gag dans un des premiers épisodes où donc, ils ont trois enfants, une fille qui doit avoir 3-4 ans au début de la série, et puis des jumeaux qui ont un an et demi. Et alors, et c'est des vrais jumeaux, c'est des jumeaux identiques. Et alors, Ray est avec ses jumeaux sur le lit et sa fille, et il lui dit « ferme les yeux ». Et puis, il intervertit les jumeaux, il leur fait faire le tour pour lui dire « bon, alors lequel est Michael et lequel est Jeffrey ?» Et puis, la petite fille, elle dit « je sais pas ». Et puis, il se penche, il les regarde, et puis il n'arrive pas non plus à le différencier. Il dit « bon, tu n'en parles pas à maman hein. ». Et c'est... moi, ça m'a touché particulièrement parce que quand ma femme attendait des jumeaux, on s'était préparé à ce que ce soit des jumeaux identiques, évidemment. Et donc, on avait fait toute une stratégie pour ne pas les confondre, précisément.
Alors, des couleurs différentes.
Des couleurs différentes, des bracelets, des machins, etc. Donc, ça m'a parlé énormément parce que les leurs, les miens ne sont pas identiques, mais les leurs sont absolument identiques. Et ça donne des... Il n'y a pas énormément d'épisodes qui parlent des jumeaux, mais ceux qui parlent des jumeaux sont très, très drôles en général.
Et donc, cette vision de l'enfance comme n'étant pas... une des choses qui, moi, est un obstacle à rire à tous les coups, ce sont des représentations d'enfants qui sont d'abord parfaitement mignons, ou bien qui... Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement dans les mauvaises séries américaines, des enfants qui sont des petits adultes.
Oui.
Et qui ont donc une répartie à 5 ans, 6 ans, 7 ans, qu'on s'attendrait à voir chez un adolescent, un adulte, même particulièrement bright. Il sort de la répartie comme si... bon, ça a beau être drôle, moi, ça me fait pas rire, parce que, en fait, ça ne se présente pas comme ça dans la vraie vie. En fait, les enfants dans Everybody Loves Raymond... ne sont pas très présents. Hein.
Non, mais parce que les adultes sont des enfants, je pense.
Il y a aussi de ça.
Je pense que c'est ça qui se passe.
Ce qui n'est pas loin de la,
réalité. De la réalité, absolument.
L'idée qu'au fond, quand on a des enfants, il y a quelque chose comme une maturité magique qui descend sur nous, un livre d'instructions en plus qui nous arrive pour nous dire comment ça fonctionne. Non, on est la même personne après avoir eu des enfants que la veille. Il y a peut-être un apprentissage qui vient à la force d'en avoir 8 comme tu en as eu.
Oui, on est toujours l'enfant de ses parents.
Le fait de se représenter les parents comme étant des gens qui, au fond, ne savent pas trop comment faire, ni avec leurs enfants, ni parfois avec leurs parents, et ni non plus parce que cette relation, donc, est une relation qui est, au fond, assez... c'est une émission qui est touchante, je crois.
Oui.
Mais elle n'est pas touchante manipulatrice, comme le sont parfois.
Non, exactement.
Elle est touchante parce que, après 23 minutes à chaque épisode, on a ri un bon coup, on a même beaucoup ri, mais on a apprécié à quel point il est difficile de vivre des relations humaines dans le contexte le plus intime, qui est celui de la famille. C'est vrai.
Et moi, ce que j'aime aussi, quand tu disais qu'il y avait les mauvaises comédies, tout est résolu à la fin, ce qui, moi, me paraît très intéressant dans Raymond, c'est que les solutions à la fin de l'épisode sont toujours des solutions de compromis, mais qui ne sont jamais des solutions fermées. C'est-à-dire, il y a eu un compromis qui a été trouvé là, en l'occurrence, mais les choses de base restent les mêmes, c'est-à-dire que ça pourrait exploser du jour au lendemain. Donc, c'est très intéressant de voir justement comment la vie de famille, c'est une vie qui est une vie de compromis. On est obligé de faire des compromis avec les nouveautés, de faire des compromis avec ce que chacun veut ou ne veut pas. Et on est obligé d'avancer justement en étant, en négociant. Et ça, je trouve ça très, très intéressant et puis très vrai, justement.
Alors, on a peut-être un devoir pour la prochaine fois, c'est de trouver quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Ou alors quelque chose qui, toi, t'a fait rire. Et c'est peut-être que j'ai le rire plus facile que toi, mais pour l'instant, on a échoué à notre tâche de trouver un truc sur lequel tu étais, qui te fait rire toi et qui, moi, ne m'a pas... pas fait rire, je propose que d'ici la semaine prochaine, on y réfléchisse un peu tous les deux.
Ah, volontiers.
À suivre la semaine prochaine.